Nous vous présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Junier Jean-Pierre. Film intérieur, production, mise en scène, Junier Jean-Pierre. Sa mère lui demande « Pourquoi es-tu parti ?» Il n'ose rien dire, il a la gorge serrée. Il se replie en lui-même. « Si je lui dis que je suis parti, est-ce que je rêve de faire du cinéma ? Elle va se moquer de moi et me dire que je ne sais rien faire, que j'aurai trop honte de lui dire que je suis parti pour ça. Elle se moquera et puis dire que l'on veut faire du cinéma, cela n'est pas sérieux. Elle va encore dire que c'est des rêves de gosse, que je veux penser que je ne suis plus un enfant. » La mère lui crie « Alors, réponds !» Il ne peut répondre. « C'est une tête de cochon. Il est parti parce qu'il ne nous aime pas. Il ne nous a jamais aimés. » Il me crie « C'est faux !» Mais il n'ose pas. Elle lui dit « Tu es sous notre garde. Fais bien attention. Interdiction de sortir. Pas d'argent de poche. Travaille. Tu es sous notre garde. La prochaine fois, c'est la maison de correction. » À la fin, on le voit se lever avant le jour, se préparer pour partir pour l'usine, passer devant les affiches de cinéma. Il les regarde, les touche. On entend au loin le bruit des sirènes des usines. Voilà, le scénario est fini. Le scénario est lu et trouvé très beau. Le père de Martine lui dit « Il est très émouvant. En le lisant, je voyais les images. Ce sera un très beau film. » On prépare le film. Équipe réduite, appartement d'amis, lumière du jour. Il cherche l'acteur principal pour jouer le jeune adolescent. Le producteur met une annonce car Nicolas ne veut pas d'un comédien. il passe en revue des centaines de jeunes, tous bons chics, bons gens, trop gamins, pas assez dégourdis, trop voyous, laids, gros, trop vieux, bébés, etc. Mais, enfin, il voit un jeune homme de taille moyenne, cheveux châtains qui ondulent, regard d'ange qui a souffert, et avec de magnifiques yeux bleus. Il est légèrement gauche. Nicolas dit, c'est lui. Mettez-le en face de la caméra. On le mène au milieu de la pièce, où se trouve un projecteur et un micro sur une perche. Le jeune reste debout, les mains dans les poches. Nicolas lui demande, tu n'as pas peur? Non. Je vais te poser des questions et tu vas répondre simplement. Oui. Ton nom? Thomas Frédéric. Âge? 17 ans. Bien. Pourquoi veux-tu faire du cinéma? Pour faire de l'argent et pouvoir être libre. Tu as quel âge? 17 ans. Tu n'es pas un peu jeune pour pouvoir vivre seul? Le jeune lève ses épaules. Tes parents seraient d'accord pour que tu fasses du cinéma? Ils n'ont rien contre, tu me manques, ça paye. Bien, c'est fini. Reviens me voir dans 15 jours. Tu as quel âge? 17 ans. Tu n'es pas un peu jeune pour pouvoir vivre seul? Le jeune lève ses épaules. Tes parents seraient d'accord pour que tu fasses du cinéma? Ils n'ont rien contre, tu me manques, ça paye. Bien, c'est fini. Reviens me voir dans 15 jours. Nicolas croit que c'est Frédéric, mais il regarde tout de même les autres essais. Oui, c'est bien lui. Il a un côté tête brûlé, tout en étant timide. C'est ce qu'il faut. Il reçoit le jeune dans le bureau de la maison de production, qui se trouve au troisième étage d'un immeuble cossu de la rue Édouard Herriot. Le bureau est une simple pièce, avec une table, deux chaises et un placard. Une fois que le jeune est assis, il lui dit « Je t'ai choisi. Tu es toujours d'accord ?»« Oui, bien sûr. »« Surtout que c'est bien payé. » Nicolas lui dit « Ne pense pas toujours à l'argent. Ce métier doit se faire parce qu'on aime le faire. Pas que pour le plaisir. Pas que pour l'argent. » Le jeune lui dit « Pour vous, c'est simple de ne pas penser à l'argent. » Parce que vous en avez, mais moi et ma famille, nous n'en avons pas. Si vous croyez que c'est drôle de vivre à trois dans une pièce, d'avoir un père qui ne fait rien, moi je veux sortir de ça. J'en ai assez de la cité Gerland sans confort. Nicolas lui dit, oui, je comprends, mais ne crois pas que ce soit un métier de tout repos. Lever à 5 heures, maquillage, habillage, essais lumière, cadrage, tourner, finir à 19h ou 20h, s'il n'y a pas de scène de nuit, et lorsqu'on rentre le soir, l'on doit apprendre par cœur les tests du lendemain, sans compter les journalistes, les personnalités locales, interviews, cocktails, soirées. Ça donne du travail tout ça. Mais ne t'en fais pas. Comme tu es mineur, tes journées seront allégées, les journalistes et tout ça, qu'avec l'accord de tes parents. Ça te va? Oui. Et le personnage que tu vas jouer, te plaît-il? Oui, il souffre à cause de sa famille, ça me plaît, mais moi, je suis moins timide. Nicolas lui dit, il va falloir jouer le rôle d'un timide. C'est ça le travail du comédien, c'est de jouer le contraire de ce qu'il est. Bien, avant que tu viennes, j'ai écrit à tes parents. Ils sont d'accord et prêts à signer le contrat. Alors, je leur dis que tu es d'accord? Oui. Et, 3 mois plus tard, le tournage commence. C'est rapide, lumière du jour, équipe réduite. Nicolas a toujours peur de tourner, surtout avec des gens qu'il ne connaît pas. Il se dit qu'une fera des films qu'avec des amis. Le tournage se passe bien, les scènes sont bonnes. Il trouve Frédéric très gentil, ne bronche pas, et alors c'est ce qu'il doit faire et dire. Il y a aussi un si joli village. Au cours d'une des scènes, pour lui montrer ce qu'il avait à faire avec un autre comédien, Frédéric devait se pencher contre lui. Il a senti son corps très doux, chaud contre le sien et ne l'oubliera jamais. Le film, une fois monté, le producteur demande de le présenter à une personnalité influente des arts. Il fait venir dans la salle de projection un homme grand, maigre, le visage osseux, mais beau, les cheveux épais, blancs. Ses gestes ont beaucoup de grâce et est habillé d'un costume gris. Le producteur le présente à Nicolas et Frédéric.
Je vous présente Monsieur Jean de la Côtière. Monsieur, voici Monsieur Nicolas Scraff, le metteur en scène, et Thomas Frédéric, le comédien principal de ce film.
Enchanté! Je suis enchanté de faire la connaissance d'un si charmant jeune gens.
Ils s'assoivent pour voir le film. De la Côtière s'est mis entre le producteur et Nicolas. Frédéric, à côté de Nicolas. Le film se déroule sans commentaire, sauf de temps en temps De la Côtière qui fait
oh, oh,
comme s'il prenait son pied. Une fois que le film est fini, silence. Puis De la Côtière dit:
fabuleux, admirable, un vrai chef-d'œuvre. Vous avez filmé comme on doit, façon reportage. Et quelle histoire! J'en ai les larmes aux yeux. Ceci me rappelle un tout jeune homme que j'avais connu et qui était beau, beau. Vous aussi, jeune homme, vous êtes d'une beauté. Il faudra que je vous fasse peindre par un ami. Oh, mon Dieu, quels jolis yeux vous avez!
Le producteur lui dit:
je suis flatté que ce film vous ait plu. Si vous voulez, nous allons boire quelque chose dans mon bureau.
Oui, je veux bien.
Et ils sortent de la salle de projection pour aller dans le bureau du producteur qui est juste à côté. Entrez, je vous en prie. Une fois dans le bureau, le producteur les fait asseoir devant une table basse où se trouvent des verres, bouteilles et amuse-gueule. Asseyez-vous. Le producteur fait le service.
Whisky, Bordeaux, Bourgogne, jus de fruits.
De la Côtière dit:
Bourgogne!
Bien, monsieur. Tenez.
Thomas Frédéric dit: un jus de fruits, jus de tomate.
Bien, jeune homme.
Nicolas dit:
Bourgogne.
Bien. Et moi, eh bien, je prendrai un Bordeaux.
La Côtière est assise en face des deux jeunes gens. Il ne sait lequel des deux est le plus beau. Il dit à Nicolas:
vous avez fait un film admirable.
Puis au producteur:
vous avez raison, mon ami. Il faut absolument faire quelque chose pour ce film. Il faut absolument le présenter à Cannes.
Ils se regardent.
Oui, ces jeunes gens sont merveilleux.
Et donne une petite tape au pied des deux jeunes gens.
Ne vous en faites
pas, mes petits amours. On va s'occuper de vous. » Frédéric est surpris. Nicolas a envie de rire. Une vieille tante, à l'ancienne mode, qui essaye de vous faire du pied. Puis, il regarde sa montre et dit « Il faut que je me sauve, mes amours. J'ai rendez-vous. » Ils se lèvent tous. Il dit à Nicolas « Venez me voir avec ce petit. Dans une semaine, j'aurai une réponse. Allez, au revoir. »
Et il se sauve.
Le producteur dit à Nicolas
« Il a l'air comme ça, mais il est très influent. Il connaît beaucoup de monde. Vous lui avez plu. Votre fortune est faite. »
Nicolas lui demande « Vous croyez vraiment qu'il va présenter notre film à Cannes ?»«
Oui, il va en parler au ministre. Et la chose sera faite. »
Nicolas lui dit « Nous allons vous faire ridiculiser. »
« Mais non, le film est très bon. »
Le producteur va à son bureau. Note sur un bout de papier. Et revient vers Nicolas.
Papier à Nicolas.
Voilà l'adresse de ce monsieur. Il est comme ça, mais il sait se tenir.
Nicolas lui dit. En tout cas, je ne lui amène pas du Frédéric. Frédéric lui demande. Pourquoi ? Parce que tu es trop jeune. Frédéric lui dit. Trop jeune ? Avec le fric que je vais me faire avec le film, je ne suis plus trop jeune. Une semaine plus tard, Nicolas va chez Jean de la Potière. Il a téléphoné pour savoir à quelle heure il devait venir. De la Potière habite un petit hôtel particulier, boulevard des Belges. Il est fin 19e avec de belles pierres apparentes beiges sur le devant. L'hôtel a 3 étages et est meublé Louis XV. Nous savons qu'il est meublé pour 15, car nous y sommes allés avant Nicolas. À 15h, Nicolas va sonner à la porte de l'hôtel particulier. Lui a ouvert un valet de chambre.
J'ai rendez-vous avec monsieur de la Potière. Je suis Nicolas Scrap.
Oui, monsieur. Monsieur m'a prévenu de votre présence, de votre arrivée. Entrez.
Nicolas entre.
Hors d'entrée. Entrez, monsieur. Et le valet le fait entrer dans une grande pièce meublée en salon. Monsieur ne va pas tarder. La porte se rouvre. L'hôte, en robe de chambre chinoise, bordeaux et bleu.
Il porte des babouches et ne semble pas avoir de vêtements sous sa robe. Le contour de ses yeux sont noircis au crayon, les joues légèrement rougies. Il s'approche de Nicolas. Mais Nicolas se demande s'il ne doit pas fuir. Il a pris rendez-vous avec Dracula. L'homme lui prend les deux mains et les lui serre.
« Comme je suis heureux de te voir, mon petit Nicolas. Et Frédéric, il n'est pas venu ?»«
Non, monsieur.
Viens, mon chéri, nous allons prendre le thé. »
Il le mène dans un coin du salon où se trouve un divan derrière une table basse. Il fait signe à Nicolas pour qu'il s'assoive. Nicolas se dit qu'il va passer à la casserole. Une fois que la chose sera faite, il sera débarrassé. Mais vite! Oh, et puis non, il ne veut pas du tout, même pour faire du cinéma. La potière frappe des mains.
Porte s'ouvre. C'est le domestique.
Le thé, s'il vous plaît.
Bien, monsieur.
J'ai de très bonnes nouvelles pour vous. J'ai parlé de votre film au ministre. Il est d'accord pour qu'il représente la France au festival. J'ai dit que ça ferait très bien, que cela montrerait que la France est un pays jeune et qu'il aide et croit à sa jeunesse. Le général est d'accord aussi.
Je vous remercie, monsieur.
Ce n'est rien. J'aime aider les jeunes talents. J'aime les hommes, les jeunes hommes. Les lancer. Après Cannes, vous saurez lancer.
Entrez.
C'est le domestique.
Il vient avec le plateau. Il va le déposer sur la table.
Et sort.
Le maître de maison fait le service.
Lait, sucre, citron.
Lait, merci.
Voilà. Là.
Une fois que le service est fini, de la potière dit
« Ne craignez rien. Je serai à Cannes, moi aussi, dans le jury. Si vous avez la palme,
je ne demande pas autant. »
Le film est sélectionné officiellement pour Cannes. Nicolas, la production et Frédéric vont à Cannes présenter leur film. Ils sont à l'hôtel Negresco. Frédéric n'en croit pas ses yeux. Tout se luxe. Le film est présenté dans le palais du festival, dans une cohue immense, photographes, journalistes, de la potière, et avec eux, et les aide à monter les marches du festival. Martine à côté de son père affolé.
le film et regarder dans un silence complet. Lorsque la lumière se rallume, quelques secondes de silence et une pluie d'applaudissements. Dans les journaux, les critiques sont élogieuses. La famille de Nicolas est aux anges. Ils n'ont pas pu se déplacer, mais ont suivi l'événement à la télévision et dans les journaux. François Chalais a interviewé Nicolas et Frédéric pendant un quart d'heure. Et Nicolas est sur l'écran en gros plan, sur fond noir. On entend la voix du journaliste de temps en temps poser une question, ce qui permet à Nicolas de bien expliquer son film. Martine est aux anges, elle aussi. Le soir de la remise des palmes, c'est la surprise. Nicolas emporte la palme d'or. Le délire. Nicolas panique. Le téléphone sonne sans arrêt à la chambre de son hôtel. Tout le monde veut le voir. Les producteurs de tous les pays veulent absolument faire un film avec lui, même les Américains. Il panique et se dit qu'il va s'il rate son prochain film, ils vont tous lui sauter dessus. Il fait sa valise et décide de rentrer à Lyon. Il le dit à Frédéric. « Non pas, nous rentrons. »« Déjà ? Oui. »« On s'amusait bien ?» dit Frédéric. « Fais ta valise, nous partons demain matin. » Il va prévenir Martine et son père dans leur chambre. Il sort sa chambre. Frappe à la chambre du père. « Entrez. » Il dit au père, je m'en vais, je ne supporte plus la foule. Je pars demain matin.
Comme vous voudrez, nous nous reverrons à Lyon.
Oui, bien sûr. Je peux mener au restaurant ce soir, Martine?
Bien entendu, mon jeune ami.
Merci, monsieur. Et à Lyon?
Oui, je reste encore quelque temps pour vendre le film à l'étranger.
en soirée, Nicolas emmène Martine dans un petit restaurant en dehors de Cannes, en pleine campagne pour être tranquille. C'est un restaurant auberge qui se trouve sur une plateforme panoramique. Une table sur la terrasse. La soirée est douce. Après avoir commandé, Martine lui dit : Je suis très heureuse. C'est incroyable ce qui vous arrive. Père est très fier de vous. Mère aussi. Si vous faites votre demande, nous ne dirons pas non. Et nous pourrions nous marier le plus vite possible. Nicolas lui répond : Génie. Je crois qu'il vaudrait peut-être mieux attendre un peu. Je ne peux pas. Je ne veux pas vous entraîner dans un avenir incertain. Comment incertain? Vous le metteur en scène le plus recherché? Nicolas rougit et lui dit : Si j'ai eu la palme, c'est par pur hasard et à cause de la potière. Vous savez tous aussi bien que moi que je ne suis pas un vrai metteur en scène. Je ne connais rien à la technique. Elle lui dit : Mais qui vous demande de connaître la technique? Vous avez une équipe technique pour ça. Elle baisse la tête et lui dit : Tant que j'ai eu cette foutue palme, mes films vont être vus à la loupe. La moindre petite erreur va être montrée. Je crois que je suis incapable de refaire un film. J'ai trop peur. C'est pour cela que je ne prends pas en mariage. Elle lui dit : Vous avez le trac, c'est normal, mais n'ayez pas peur, père sera là pour vous aider. Et comme dit mon père, avec de bons professionnels de la technique, n'importe qui peut être metteur en scène, même le dernier des ploucs. Alors, vous n'avez rien à craindre. Il lui dit : Merci pour tout. Mais je n'ai pas dit ça pour vous. Vous, vous êtes un vrai metteur en scène. Pardonnez-moi. Je suis triste, il m'exprime mal. Je n'ai rien. Attendez, après mon deuxième film, je demanderai. Je ferai ma demande. Elle lui dit : Alors, faites vite. Le lendemain matin, avec Frédéric, Nicolas retourne à Lyon en voiture. Lyon, la ville dédaigneuse, qui se moque des grands hommes, qui fait comme s'ils n'existaient pas. Qu'un de leurs concitoyens ait eu la palme d'or, il s'en
contre-foutre. La ville ne veut pas être éveillée pour si peu. Elle se veut une grande métropole, capitale européenne, et en même temps, elle veut rester dans ses charentaises et sa robe de chambre en laine. Guignol, la mère Cotivet, les gratons, le saucisson et la piquette de Beaujolais. C'est plus important que tout. Pour ce qui est des jeunes, du moment qu'ils ont les pentes de la Croix-Rousse à dégueulasser avec les graffitis, affichage sauvage, squat et jouer dans les caves, leur musique de tordu, c'est le principal. Entre une population pareille, les jeunes sont comme les vieux. Ils tiennent à leurs idées et coutumes. Le vieux, c'est les charentaises et la robe de chambre. Les jeunes, c'est les gobillots et le jean dégueulasse. Mais les uns comme les autres veulent qu'on les laisse dormir en paix. Donc Nicolas, comme tous les grands hommes qui l'ont précédé, ne risque pas d'être dérangé par la population qui ne veut pas être dérangée. Arrivé à Lyon, il va déposer Frédéric devant chez ses parents, à Gerland, dans la cité. Le jeune lui demande « Nous nous reverrons, hein ?» Nicolas lui répond « Bien sûr, je te le promets. Même si tu ne fais plus de films, nous nous reverrons. Même si je ne fais plus de films. Que vas-tu faire de l'argent de ton salaire ?» Frédéric lui dit. Ma mère l'a mise dans un livret de caisse d'épargne et je le rendrai à ma majorité. Mais je veux me tirer avant. Colin lui dit, ne fais pas de bêtises, ne t'en fais pas. Colin l'embrasse et lui dit, à bientôt, je t'appellerai, c'est promis. Et Nicolas part. Arrivé chez ses parents, sa sœur, son frère le reçoivent les bras ouverts. Son père lui dit
« Je suis fier de toi, tu es sur le chemin de la gloire. »
Sa mère l'embrasse et lui dit
« J'aurais aimé t'accompagner à toutes ces fêtes où tu as été invité. Ça a dû être merveilleux. »
Nicolas lui dit c'était beau aux actualités, mais en réalité très ennuyé.
Comment cela ? Tu me fais marcher avec Delon, Bardot, Eddie Constantine, Elizabeth Taylor.
Mère, arrêtez, vous n'allez pas nous lire tout le bottin du cinéma. Et puis, ce sont des gens comme tout le monde. Sans les projecteurs, ils ne sont pas mieux.
Le père dit, allons déjeuner, il doit avoir faim après ce trajet.
Oh oui, le pauvre!
Et ils sortent du salon.
Durant le repas, sa sœur lui demande « Maintenant que tu as une bonne situation, que tu es célèbre, que vas-tu faire ?» Il lui répond,
prendre un appartement et vivre seul, elle lui dit « Tu en as assez de nous ?»«
Non, j'ai besoin de tranquillité, de solitude. Je veux réfléchir pour mon avenir. »
Elle lui dit « Ton avenir, il est tout tracé.
Ne crois pas ça.
C'est maintenant qu'il va se décider.
Et puis ce prix que j'ai eu est un poids difficile à porter. »
Est plus difficile à porter qu'autre chose, tu sais. »
Mon frère lui dit, « J'ai même pas vu ton film, parce qu'il est interdit au moins de 18 ans.
Je le montrerai en séance privée, juste pour toi. »
Denis sourit, il est heureux.
Nicolas, la première semaine ne fait rien
et se repose.
Il présente son film à son frère dans la salle de projection du producteur.
Denis lui dit, à la fin de la projection,
« C'est très beau, ton héros me fait pitié. On dirait qu'il a toutes les peines du monde sur ses épaules.
Et quelle réalité! Tu as bien su démontrer la déception de Paris, qui pour lui était une ville si belle et pas comme les autres.
Et les parents, qui ne comprennent pas.
Oui, c'est vraiment très beau, un très beau film. S'il pouvait y avoir une copie en 8 mm, je le regarderai souvent dans ma chambre.
C'est un film à voir et à revoir. L'atmosphère y est tout aussi importante que l'histoire.
Comment as-tu fait ? Nicolas lui dit.
L'atmosphère d'un film, c'est surtout une question de lumière. La lumière joue beaucoup sur le psychique des gens. Une lumière triste, des images grises, donne une ambiance qui met mal à l'aise.
Un film bien en couleur, avec des couleurs vives et gaies, met le public en bonne humeur.
La musique aussi joue un rôle, et les mouvements des acteurs. Plus les mouvements sont pesants, plus ça met mal à l'aise.
Pour l'atmosphère, un film doit avoir du début à la fin la même lumière et ne pas changer constamment d'ambiance, d'atmosphère, sauf si c'est pour montrer deux mondes contradictoires.
Tantôt l'histoire se déroule dans un monde triste et tantôt dans un monde gai.
Là, pour ce film, j'ai tourné en hiver, un hiver pluvieux et gris, et je n'ai tourné que dans des endroits, disons, qui ne sont pas beaux.
Voilà, je tâcherai de te faire une copie en 16 mm et te paierai un projecteur. Comme ça, de tous mes films, tu auras une copie.
Merci. Denis l'embrasse sur la joue.
Nicolas veut vivre seul et cherche un appartement. Il en a trouvé un rue des Archers, un F3 dans un vieil immeuble cossu. C'est au 5e étage. Hall d'entrée, en face couloir qui donne aux pièces, à droite le salon, la salle à manger, à gauche la chambre, cuisine, salle d'eau. Le hall et le couloir sont en marbre, salon, salle à manger, chambre, parquet. Comme l'appartement est ancien, il a acheté des meubles Louis XV, sa sœur l'a aidé.
Ses parents n'ont pas fait histoires qui veulent vivre seul. Nicolas n'a aucun projet de film pour le moment. Pourtant, tous les jours, il trouve dans son courrier des propositions de travail de producteurs du monde entier. Il continue à voir Martine et son père. Le père de Martine veut absolument que Nicolas fasse ses films avec lui.
C'est grâce à moi que tu as pu faire du cinéma. Ne l'oublie pas.
Non, je vous le promets. Avec Martine, il va une fois par semaine au restaurant et quelquefois à un concert. Il lui a montré son appartement en plein après-midi. Après l'avoir vu, elle lui dit « Il ne nous reste plus qu'à nous marier ?» Il lui répond « Il ne me reste plus qu'à faire un film. Comme cela, je serai sûr que je suis capable d'en faire un autre. » Elle lui dit « Alors faites vite. Pour le moment, je n'ai pas de sujet. » Faites une adaptation d'un livre ? Non, je n'aime pas adapter. L'on risque de défigurer une œuvre. Et puis, une histoire écrite pour le cinéma, c'est mieux. Nicolas a promis à Frédéric qu'il garderait contact avec lui. Alors, dès qu'il peut, il lui téléphone pour lui donner rendez-vous. Je t'invite. Restaurant. Je vais te chercher à 20h, en bas de chez toi. D'accord ? Oui, merci. Et le soir, ils vont dans un restaurant rue des Marronniers. Il y a du monde. Le restaurant a un décor bistrot, mais grand. La nourriture y est très abondante. Frédéric a mis un costume neuf, vert bouteille et une chemise blanche. Nicolas lui demande « Qu'est-ce que tu deviens ?»«
Pas grand-chose. Mes parents ont voulu que je retourne au lycée. Après tout ce qui s'est passé, tu te rends compte ? Et en plus, ils n'ont rien compris. Pour eux, le cinéma, c'est un amusement. » Comme ça ne signifie rien. Ils veulent que je continue ma vie comme avant, dans leur HLM pourri. Parce que malgré l'argent que j'ai gagné, ils veulent continuer à vivre comme ils ont toujours vécu. C'est-à-dire comme des ploucs. Mais moi non. Je rêve de vivre comme je l'entends. Malheureusement, je n'ai que 17 ans.
Nicolas lui dit, tu seras bien vite majeur. Frédéric lui demande.
Tu fais bientôt un film ?
Je ne sais pas. Rien de prévu pour le moment.
Fais vite, parce que je veux en être.
J'en serai, n'est-ce pas ?
Oui, bien sûr, je te le promets.
Un soir, Nicolas est chez lui, à lire au salon. On a sonné à la porte.
Il se lève pour aller ouvrir.
J'ai quitté mes parents.
Nicolas voit qu'il a un sac de voyage à la main.
Tu as quitté tes parents ? Comment ?
Oui, définitivement. Nicolas gêné lui dit, viens, allons parler au salon. Ils y vont. Entre. Assieds-toi et s'assois sur un canapé.
Je veux bien t'héberger, mais il faut que tu me dises ce qui s'est passé.
Rien. J'ai raté mes examens. Grosse engueulade à la maison. Au lieu de faire du cinéma, t'aurais mieux fait d'étudier, etc.
Radio Canu vous a présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre. Film intérieur dont c'était la 8e partie. Production, mise en scène Julien Jean-Pierre, enregistrement CVRP.